Vous êtes sur Canal Sud, vous êtes également sur Radio Galère et sur Radio Piquez. Cette journée radio spéciale continue, une journée pour Adama Traoré, un an après sa mort, et une journée pour toutes les victimes des violences et du racisme d'État, et notamment pour tous les morts et les mortes par les forces de l'ordre en France. Alors, ce début de journée a été consacré entièrement, quasiment, à Adama Traoré, à sa mort et au combat que mène sa famille et ses proches. Nous avons commencé aussi à revenir sur d'autres histoires, comme celle de Lamine Diang, et sur d'autres combats, car comme le disait Ramata tout à l'heure, ce ne sont pas des cas isolés, ces morts par la police. Il s'agit d'un système, d'une violence d'État, d'un racisme d'État, et donc c'est ça dont nous allons aussi essayer de parler cet après-midi, avec un peu de mise en perspective. On va parler histoire, on va parler état d'urgence. Adama, un an après, une journée radio spéciale, ça continue.
Mercredi 19 juillet 2017.
Adama, un an après, une journée radio spéciale. Le 19 juillet 2016, Adama Traoré, 24 ans, trouvé la mort dans les locaux de la gendarmerie de Persan dans le Val d'Oise.
Un an après, Canal Sud lui rend hommage, à lui comme à toutes les très nombreuses victimes de violences policières, à travers une journée exceptionnelle.
De 10h à 20h, 10 heures de programme sur notre antenne. 10 heures pour faire le point sur la lutte de la famille Traoré contre le système judiciaire aux policiers et sur les pressions incroyables qu'elle subit en réponse.
10 heures pour évoquer d'autres morts et soutenir d'autres combats, moins emblématiques mais tout aussi difficiles et importants.
10 heures pour dire notre refus des pratiques des forces de l'ordre, notamment dans les quartiers populaires, et de l'impunité dont elles bénéficient.
10 heures pour exiger vérité et justice pour toutes les victimes de la violence et du racisme d'État.
Le 19 juillet 2017, de 10h à 20h,
retour sur un an de violence policière avec des sons, reportages, émissions, plateaux d'ici et d'ailleurs.
Pas de paix.
Pas de justice. Pas de paix.
14 avril 1993. Fabrice Aumont, 15 ans, Cherbourg. Tué à bord d'une voiture volée, d'une balle dans le dos, par un policier en moto qui tentait d'immobiliser le véhicule. Le policier est suspendu de ses fonctions à titre conservatoire et mis en examen pour blessure involontaire.
8 juin 1993. Mafta Belkam, Firmini. Jeune homme tué d'une balle dans la tête par un policier pendant le cambriolage d'un magasin de sport.
Franck Moret, 29 ans. Juillet 93, Saint-Barthélemy de Vals. Tué d'une balle dans la tête par un gendarme qui sera relaxé 4 ans plus tard.
Romuald Duriez, 21 ans, octobre 93, Arles. Tué d'une balle dans la tête par un policier en planque alors qu'il tentait de voler des bières dans un supermarché.
Linda Benzouaï, octobre 93, Givors. Tué lors d'une courte poursuite.
Mourad Thiers, 19 ans. Décembre 93, Bron. Tué d'une balle dans le dos par la police lors d'une course-poursuite.
27 janvier 1994, à Val-de-Reuil, près de Rouen. Ibrahim Si, 18 ans. Tué par balle par un gendarme, un non-lieu est prononcé en novembre 1997.
Juin 1995, Belkacem Belhabib, 23 ans, morte au terme d'une course-poursuite avec la police.
Todor Bogdanovic, 8 ans, août 95, Sospel. Enfant de Zigane fuyant la guerre en ex-Yougoslavie, tué d'une balle dans le thorax par un agent de la police de l'air et des frontières, alors que la voiture tentait de forcer un barrage de police. Le policier est acquitté 3 ans plus tard.
Le 19 juillet 2017, de 10h à 20h, Adama, un an après, une journée radio spéciale.
Extrait du magazine diffusé sur Canal Sud le 13 février 2017.
Pas de justice, pas de paix.
Pas de justice.
pas de paix.
Dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986, à Paris, en pleine répression du mouvement contre la loi Devaquet, un mouvement lycéen et étudiant, un jeune homme de 22 ans était matraqué à mort par deux voltigeurs dans une cage d'escalier. Il s'appelait Malik Houssekine et on va entendre avec des petits sons d'archives que déjà à l'époque, la machine à mentir, la machine à noyer le poisson.
En tout... Storytelling.
Ouais. Voilà.
La même machine que pour Adama. Là.
Ouais, la machine était déjà bien en route.
Bonsoir. La mort d'un étudiant hier soir à Paris au quartier latin. Il a été frappé par plusieurs policiers. Malik Houssekine est mort d'un arrêt cardiaque. Manifestation de protestation cet après-midi à Paris au cri de Chirac démission.
Trois CRS ont sorti de l'immeuble du 20 rue Monsieur le Prince. Un mec sur lequel ils se sont acharnés, en fait. J'ai vu les policiers frapper ce jeune Malik à coups de matraque, à coups de poing, et surtout, ce qui est inadmissible, à coups de pied dans la gueule. Un seul coup de pied dans la gueule, quand même, mais un coup de pied.
Ce soir, le procureur de la République déclare que l'autopsie n'a révélé aucune fracture ni aucune lésion cérébrale. Le visage de Malik Houssekine est tout de même très sérieusement contusionné. Pour le procureur, une grave maladie rénale dont souffrait l'étudiant pourrait être plus directement que les coups responsables de sa décompression cardiaque. Fin de citation.
Je puis dès maintenant pouvoir vous dire que les forces de police ont fait leur devoir et ont obéi aux instructions qui leur ont été données.
Dans la journée, rue Monsieur le Prince, et pas seulement parmi les jeunes, peu de monde partageait la thèse du devoir policier. Un étudiant est mort à 22 ans la nuit dernière à Paris.
Un exemple Malik Houssekine. Macomé en a été victime.
Vous voulez qu'on respecte votre...
votre état policier. Vous nous dites que tous les flics ne sont pas mauvais, que si la police n'était pas là, ce serait pire encore, que la société a besoin de vous, sans compter ses morts. Mais c'est fini, le peuple se réveille et nous demandons des comptes. Le pouvoir judiciaire doit prendre au sérieux ce que l'on raconte. L'amour de l'ambiance quand la bavure frappe. La police et l'armée sont des gangs organisés, où je prends mes marques. Un exemple de comportement dans les émeutes du 18ème. Ils frappent les jeunes, les vieux, les enfants, afin que l'ordre règne. Nous sommes base au premier chapitre des enculeries politiques, financières, policières. Le business des affaires est prospère quand ils se rêvent dans les couloirs des ministères. Et pendant qu'assassin est censuré quand il s'exprime, le gouvernement est à la tête d'un état qui assassine.
D'un état assassine. Le combat pour ceux qui vivent. La police est comme un con. D'un état assassine. Napoléon a été victime. La police est comme un con. D'un état assassine. Napoléon a été victime. Paix à toutes les victimes.
Je parle des bases policières. Oui, mon frère, quand dans un éclair tout s'arrête. Quand tu prends une bastos en pleine tête par les responsables du maintien de l'ordre public. De l'ordre public ou de l'ordre politique. Du délire d'un flic où l'erreur est humaine. Alors moi aussi, dites-moi, je dégaine. Le crime, est-ce un produit du système? La haine appelle la haine si ton esprit se referme. Le doigt sur la gâchette, mon front transpire. Mon cœur bat plus vite. Mes pulsations s'excitent, le sang coule dans mes yeux. Mais je mérite mieux. Pourquoi le shooter lui et pas un autre? Si je shoot ce keuf, je devrais shooter les autres. Mais ce sont les hommes, ça y est, ma tête explose. Toutes tes valeurs s'entrechoquent, car la question que je me pose est: doit-on répondre de la même manière aux violences policières? Mais je ne changerai pas le cours de l'histoire si je suis un commissaire. Si il a buté mon frère, ça pourrait me satisfaire. Mais le cul entre garnir, il ne me restera que la prière. Oh shit! Ma personne s'excite et mes doigts sur le calibre sont moi tremblés s'agitent. Les secondes paraissent des heures. Et l'odeur de l'acier dans ma main a un goût de rancœur. Tant pis je shoot, tant pis je shoot. Je n'en ai plus rien à foutre, dans ma tête il n'a plus de doute.
Réveille-toi, redescends, refrain. Oh, 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 oh.
Mais mec, pas un rêve, un putain de cauchemar. J'étais en train de shooter un cœur.
Shooter un cœur. L'état assassine, n'a rien de mal à vous aider. La police c'est comme un con. Car l'état assassine, n'a pas de mal à vous aider. La police c'est comme un con. Car l'état assassine, n'a pas de mal à vous aider. Paix à toutes les victimes. Paix à toutes les victimes. Paix à toutes les victimes. Paix à toutes les victimes.
Hassan Kokak, 19 ans, octobre 95, Port Grimaud. Tué d'une balle dans le dos par un gendarme.
Jamel Benaka, 26 ans, novembre 95, Laval. Abattu par un policier au commissariat de la ville.
Étienne Leborgne, 33 ans, janvier 96, Saint-Ouen. Tué d'une balle dans la tête lors d'une interpellation à son domicile par un policier en civil. L'auteur du coup de feu est acquitté.
Sada Ba, juillet 1996, Mantes-la-Jolie. Mort noyé dans la Seine, alors qu'il était pourchassé par des gendarmes.
Jawad Zawiyad, juillet 96, Bois d'Arcy. Mort asphyxié dans sa cellule.
28 juin 1997, Dai Chiwi, travailleur sans papier de 38 ans, Paris. Décède en chutant du deuxième étage pour échapper aux policiers lors d'un contrôle contre le travail clandestin.
Le 19 juillet 2017, de 10h à 20h, Adama, un an après, une journée radio spéciale.
Extrait de Hip Hop Justice 2016, diffusé sur Radio Galère le 9 juillet 2016, en direct du centre social L'Agora dans le quartier de la Busserine à Marseille, à l'initiative des collectifs Angle Mort et La Classe Dangereuse.
Pas de justice, pas de paix.
Pas de justice,
pas de paix.
Pas de paix.
contrôle d'identité, j'en ai vécu plusieurs, mais il y en a un qui m'a marqué en particulier. Je m'en souviens très bien, c'était à Marseille, et c'était un samedi soir. Il devait être aux alentours de 20h30. Zahir avait passé son permis pendant l'été, il avait travaillé tout l'été pour s'acheter une voiture, et puis voilà, le grand jour était arrivé. Il m'a dit à moi et puis à d'autres copains, venez, on va faire un tour dans le quartier, on va y traîner la voiture. Donc moi je leur dis, je peux pas rentrer trop tard à cause de ma mère, bien évidemment, mais bon, j'étais quand même hyper excité, j'avais 17 ans. Un mois plus tard, j'allais avoir 18 ans, j'allais passer mon permis, donc faire un tour en voiture. En plus, dans cette voiture, il y avait un autoradio, donc à l'époque, ça voulait dire quelque chose. Hein. Donc je dis, ok, ben, je viens, mais je reste pas trop longtemps. Et on fait ce tour en voiture. Au moment de rentrer, on était à peu près à 300 mètres de la maison. On se fait arrêter, contrôle de police, c'était des CRS. Bon, là, on n'est pas surpris, on a l'habitude. Donc ils nous arrêtent, ils demandent à Zahir les papiers du véhicule, ils demandent de le suivre. Bon, très bien. Il y avait quand même quelque chose d'assez bizarre. C'est que il y avait plusieurs CRS, et l'un des CRS, il avait une mitraillette à la main. Et lui, il n'avait pas l'air net, il n'avait pas l'air bien, il avait l'air nerveux. Et donc Zahir est parti, et pendant ce temps, ce CRS qui tient la mitraillette frappe à la fenêtre de shérif, là, qui était juste devant moi. Il lui demande de la baisser, donc il la baisse. Et il lui dit, en le fixant droit dans les yeux, ça j'oublierai jamais, je sais pas si c'est le froid, mais ce soir j'ai la gâchette facile. Ah, ça fout la chair de poule, hein. Et je sais pas, il m'a pris en grippe. Je sais pas pourquoi, mais moi en particulier, il a quelque chose. Donc il avait demandé les papiers à tout le monde, moi je les avais pas sur moi, il m'a fait descendre de la voiture, il me fouille, c'est la palpation, il tombe sur un jeu de cartes. J'avais toujours un jeu de cartes. Il me fait, ah, tu joues au poker, c'est ça? Je lui dis, non, je joue pas au poker. Bon, il trouve rien. Les papiers, je les avais pas sur moi, mais bon, en même temps, j'étais dans mon quartier, je suis français, je sors jamais de mon quartier, tout le monde me connaît. Enfin bon. Bon, je me réinstalle dans la voiture. Zahir revient, contrôle d'identité est terminé. Tout va bien, on est en règle. Les autres CRS me disent, vous pouvez y aller. Ils partent d'ailleurs, mais il y a celui qui a la mitraillette qui reste. Et lui, il continue à être un peu nerveux. Et c'est bizarre parce qu'à ce moment-là, il prend sa mitraillette et il la passe, la fenêtre est encore ouverte. Il la passe dans la voiture, comme ça, et il pointe le canon entre la tête de shérif, qui était assis devant, et la fenêtre, et le canon est droit sur moi, comme ça. Tiens, j'ai vu le canon. Et d'un coup, en fait, je m'appelle Majid Ajaroudi. L'histoire que je viens de vous raconter, c'est celle de Laouri Ben Mohamed. C'était mon cousin. Ça s'est passé le 17 octobre 1980 à Marseille. Et Laouri est mort, atteint par une rafale de mitraillette dans la tête, ce soir-là. C'est bien évidemment un drame de se dire qu'au cours d'un banal contrôle d'identité, un jeune homme qui avait la vie devant lui a pu être la victime d'un racisme ambiant qui ne disait pas son nom. Quelques années plus tard, des collègues lyonnais sont descendus à Marseille pour lui rendre hommage et pour débuter une marche pour l'égalité. Ils sont partis, ils sont montés à Paris et le point de départ, c'était le lieu de l'assassinat de Laouri. La justice dans tout ça, pour le tireur, 10 mois de prison, donc 4 mois avec sursis, libération immédiate et amnistie. Ça a mis 7 ans. 7 ans de procès, de procédures, de tribunes dans la presse, de manifestations, de luttes, de marches. 7 ans pour que la justice s'exprime. 7 ans pour qu'on trouve enfin un coupable. Le coupable, selon la justice, la mitraillette.
Donc là, c'est un témoignage vraiment très, très émouvant. Donc c'est Majid, le cousin de Laouri, qui prend sa place et qui témoigne de ce moment où Laouri, il était vivant et qu'il a plus été. Donc la violence aussi que ça peut... Enfin, moi, je sais que ce témoignage-là, je ne l'avais pas écouté avant et que je viens de l'écouter maintenant et que ça m'émeut tarpin d'entendre cette histoire qui est à la base de, comme il le dit à la fin, qui est aussi à la base de la marche de la dignité qu'il y a eu à la fin des années 80. Donc de cette violence-là structurelle, de cette violence quotidienne, de ce racisme ambiant qui est ancré dans la police française, voilà, il en est ressorti ce meurtre-là dans les années 80, il y a plus de 30 ans maintenant. Et donc là, on est en train de chercher une musique qui est en lien. Je ne sais pas si tu veux nous l'introduire ou pas, la musique, si tu veux l'expliquer un peu.
Si je peux rajouter quelque chose aussi, c'est que, évidemment, le témoignage est super violent, super choquant. Et moi, ce qui m'a aussi super choquée en l'écoutant maintenant, parce que je le découvre tout de suite, c'est encore une fois la lenteur des démarches, toujours pour trouver un coupable, la légèreté des peines que prennent les policiers dans ces cas-là. Et c'est inadmissible et ça, c'est toujours comme ça aujourd'hui, malheureusement. Quoi, voilà.
Au fur et à mesure de toutes les histoires qu'on entend depuis plus de 40 ans, on peut voir qu'il n'y a qu'une seule constante,
c'est
l'impunité.
Ça,
la seule constante qu'il y a dans toutes ces histoires-là, c'est l'impunité policière. Mmh. C'est la seule qui existe. Et si tu voulais bien nous parler du morceau que tu as choisi, oh, ou même du contexte.
Ouais, j'ai demandé si ce morceau, vous l'aviez, qui s'appelle Yaoulidé, qui veut dire mon fils. Hein.
C'est ça.
L'auteur de la chanson, c'était mon meilleur pote à l'époque, il habitait au Flamand, moi j'habitais au Maï, donc c'était juste à côté. Et quand ce jeune est mort, effectivement, c'est lui qui a créé cette chanson. Et par rapport à ce meurtre, hein, on ne peut pas dire autre chose, il y en a qui vont choisir d'autres termes. Non, c'est un meurtre, c'est un assassinat. Et on l'a chanté très haut et très fort dans les métros de Marseille à l'époque, je me souviens. Il l'a chanté à la guitare, moi j'avais le chapeau et on récoltait... Et on récoltait des fonds, c'est tout ce que je peux dire. C'est ancien, c'est un très beau... Enfin, très beau. Compte tenu des événements, non, mais cette chanson est d'une beauté rare. Et c'est l'auteur en est Mohamed Bouzidi, qui habitait les Flamands d'ailleurs.
Okay.
Voilà.
Merci.
C'est tout ce que je peux dire. Merci.
Bonne écoute.
Marseille Hip Hop Justice.
Yaoulidi, c'est une chanson qui a été écrite en 81 par Momo Bouzidi. Pour accompagner la pièce de théâtre qui parlait de mon frère et du drame de l'histoire. Voilà. Donc c'est une chanson qu'on n'entend pas, qui n'est pas reprise, sauf dans la pièce de théâtre qu'on a rejouée en 2011.
Un contrôle de papier et deux coups de fusil. C'est un arabe en moi, que la presse n'en dit rien. À l'heure où le soleil va bientôt se coucher, elle pleure son enfant. Pourquoi t'ont-ils tué? Yaoulidi, Yaoulidi, Yaoulidi. Elle a perdu son fils. Te le voir grandir, sourire et puis les lèvres. Maman, je t'aime. Maman, je t'adore. Maman, arrête un peu de travailler. Yaoulidi, Yaoulidi, Yaoulidi. Voilà. D'un immigré parmi tant d'autres. Oui, je te jure que t'es gravé dans tout mon cœur. C'est le triste sort de tous mes grecs en France qui se laissent écraser par les coups acharnés. C'est un arabe en moi. Et la presse n'en dit rien. Aujourd'hui c'est Wari, demain ça sera Toumi. Yaoulidi, Yaoulidi, Yaoulidi. Un contrôle de papier et de coups de fusil. C'est un arabe en moi. Et la presse n'en dit rien. Alors le soleil va bientôt se coucher. c'est la famille entière qui se met à pleurer. Yaoulidi, 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 adieu Wali, pourquoi t'as-tu assassiné? Yaoulidi, toi qui savais. Il est parti comme ça, sans même dire salut. Il est parti un soir pour ses cheveux frisés. Yaoulidi, pourquoi t'ont-ils assassiné? Ya Rabbi, pourquoi est-ce qu'on a tué? Yaoulidi. Le mal qu'ils avaient fait. À l'heure où le soleil va bientôt se lever, il leur ont dit, on n'oubliera jamais. Yaoulidi, 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 sortez de ma demeure. Vous nous l'avez tué. À l'heure où le soleil va bientôt se coucher, vous nous assassinez sans crainte et sans pitié. Yaoulidi, Yaoulidi, Yaoulidi. Un contrôle de papier, n'a rien dit. À l'heure où le soleil s'était déjà couché, ils l'ont assassiné sans peine et sans regret. Yaoulidi, 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 Yaoulidi.
Décembre 1997. Abdelkader Bouziane, 16 ans, Damary Lélis. Tué d'une balle dans la nuque par un agent de la BAC, alors qu'au volant d'une voiture, il tentait de contourner un barrage de police. Non-lieu prononcé à Orléans en 2001.
18 décembre 1997, Lyon. Fabrice Fernandez, tué dans un commissariat d'une balle dans la tête à bout portant par un policier alors qu'il était assis sur une chaise et menotté dans le dos. Condamné le 10 décembre 1999 à 12 ans ferme.
31 août 1998, Tarbes. Eric Benfatima, sans domicile fixe de 25 ans. Tué de 3 balles dans le dos par un policier en civil pour lui avoir demandé une cigarette. Le policier est condamné pour coups et blessures sans intention de donner la mort à 10 ans de prison par la cour d'assises des Hautes-Pyrénées.
6 novembre 1998, Sidney Manoka Nza, Tourcoing, 25 ans. Jeté à terre, menotté, asphyxié par compression thoracique lors de son interpellation pour l'emmener au commissariat. 2 des 5 policiers sont condamnés à 7 mois de prison, avec sursis.
Bruno Dettinger, 24 ans, et Arthur May, 40 ans. Novembre 1998, Chape de Beaufort. Tué par balle à la poitrine lors d'une poursuite. Un non-lieu est prononcé 2 ans plus tard.
Saoud Mohamed Ali, novembre 1998, Toulon. Mort asphyxié à terre, menotté et maîtrisé.
Habib Di Pipo, 17 ans. Décembre 1998, Toulouse. tué par balle en tentant de fuir un contrôle de police. 3 ans de sursis pour le policier.
Lionel Obadina, janvier 1999, Seine-Saint-Denis. Tombé sous les balles de l'unité mobile spécialisée, une unité de la police.
Arunam Fiva, juin 1999, Roissy. Tué par un commissaire de police et un inspecteur en service au cours de son expulsion. Le tribunal de Bobigny les relaxe.
8 février 2000, Zamani Derni, 25 ans, à la maison d'arrêt de Nantes. La justice conclut à un suicide, malgré des contusions découvertes sur le corps.
25 mars 2000, Mayenne. Jérémy B., 23 ans. Mort par strangulation au commissariat, l'IGPN déclare les policiers hors de cause.
19 avril 2000, Lille. Riyad Amlaoui, 23 ans, abattu d'une balle dans la nuque à bout portant. Le policier, inculpé d'homicide volontaire, est suspendu de ses fonctions et condamné par la cour d'assises du Nord à 3 ans de prison avec sursis.
Le 19 juillet 2017, de 10h à 20h, Adama, un an après, une journée radio spéciale.
Extrait de Brasero, diffusé sur Canal Sud le 6 mars 2017. Entretien avec Mognis Abdallah, réalisé en mai 2013.
Justice, pas de paix.
Pas de justice.
Marseille, le 15 octobre.
La marche
quelques
pour
banderoles, une poignée de jeunes, immigrés pour la plupart. Du sud au nord, ils partent pour rencontrer des Français, entamer le dialogue avec eux et leur tendre la main.
Il y a du Gandhi et du Luther King dans leur démarche.
Sur les problèmes, ils sont les leurs et qu'ils les touchent chaque jour, c'est-à-dire l'indifférence et souvent même l'hostilité dont ils font l'objet.
Des ratonnades et des crimes commis dans les banlieues. Du sang et des larmes, les immigrés en ont trop versé et pourtant c'est par la sueur.
Kader de Vitry, 15 ans, tué en 1980. Lawari Ben Mohamed, tué par un CRS à Marseille en 80. Abden Bigemia, tué par un beau fan en terre en 82. Ouedia Chichi, 18 ans, tué à Lyon en 82. Toufi Guanès, 9 ans.
Je crois que l'histoire du mouvement Beur, elle commence déjà par cette horreur, par la police, la justice, parce que pendant toutes les années 83, 84, 82, il y a eu le mouvement des Minguettes, et c'était pas par hasard non plus, c'était la suite de crimes, de violences policières, de jeunes qui étaient matraqués. Les assassins d'Arabes en France en prenaient pour 6 mois. On était plus punis à voler un autoradio qu'à tuer un Arabe.
Deux ans que la gauche est au pouvoir et la magie n'opère plus. C'est le tournant de la rigueur, on a bouffé les roses, il ne reste que les épines. Le Front National commence son ascension et la France se rend compte que les immigrés des ex-colonies ne vont pas partir. 1983, une génération arrive à l'âge adulte, 20 ans après la fin de la guerre d'indépendance de l'Algérie. Une génération dont les parents sont venus travailler en France dans des conditions difficiles. Beaucoup de ces enfants ont connu les bidonvilles et les cités de transit. C'est dans une dynamique de lutte sur les questions du logement, sur les conditions de vie, contre les crimes racistes et sécuritaires, qu'apparaît la marche pour l'égalité contre le racisme. Plus qu'une simple marche, c'est la pointe émergée d'un mouvement de fond, d'une génération qui veut trouver sa place dans la société. Entretien avec Mognis Abdallah, journaliste indépendant, cofondateur de l'agence Immedia et participant à cette marche. L'entretien est entrecoupé d'extraits du film 12 France, chronique du mouvement Beur, un film que vous pouvez commander auprès de l'agence Immedia.
l'origine de cette marche, il y a l'événement le 20 juin 1983 au Minguette. Un soir, le ramadan, il faisait chaud. Une intervention de police. Un maître chien qui envoie un chien sur un jeune. Toumi Djedja, donc c'est un jeune des Minguettes. Il essaie d'intervenir pour bloquer le chien qui est en train de croquer un autre jeune. Et à ce moment-là, le maître chien, un policier, il tire sur Toumi, le blesse grièvement d'une balle au ventre. Or, Toumi Djedja était un jeune des Minguettes qui était connu localement et dont on avait déjà parlé suite à des affrontements entre des jeunes et la police. Donc, le 21 mars, il y a deux descentes de police, deux descentes non coordonnées, paraît-il. Les jeunes qui étaient là, ils voient les flics s'affairer autour du local. Ils avaient un petit local, de défoncer la porte et tout ça, et donc ils s'attroupent. Et les flics ils deviennent agressifs avec des mères de famille. Et là, les choses partent en vrille. Il y a des affrontements, bref, mais assez violents, où les flics à l'époque donc prennent une raclée. C'est une déroute. Hein. Et dans les légendes, comme ça, ça se fait pas. Et donc, dans la ville, il y avait la rumeur d'une contre-offensive militaire où flics et gendarmes reviendraient massivement dans la cité. Attention. Et pour éviter l'engrenage de la guéguerre entre jeunes et police, un groupe de jeunes de la cité, des Minguettes, décide une grève de la faim. Du 28 mars au 12 avril, ils exigent des négociations avec les pouvoirs publics. Ils s'adressent aussi à Mauroy, à l'époque Premier ministre, pour négocier autour des contentieux entre jeunes et policiers, contentieux avec un certain nombre de magistrats aussi, qui poursuivent les jeunes, dans une logique de règlement de compte, plus poser sur la table la question de la réhabilitation de la cité, de la participation des jeunes et des habitants à cette réhabilitation, et évidemment la question du chômage, enfin du travail, vu que les gens étaient massivement chômeurs à l'époque. Ensuite, à la blessure de Toumi Djedja, les gens se disent qu'est-ce qu'on fait. Quand on dit les gens se posent la question, c'est effectivement d'abord les Minguettes, mais il y a aussi une mise en relation avec des situations ailleurs qui permettent de comparer. C'était une période où on favorisait la circulation et la fluidité des idées pour comparer les situations et essayer de s'inspirer des acquis des uns et des autres. Pour essayer de créer un rapport de force favorable. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait les radios libres, mais il n'y avait pas ni les portables, ni Facebook, ni je ne sais pas quoi, les réseaux sociaux d'aujourd'hui. Quand on faisait circuler, c'était physique. Il y avait par exemple des membres de l'association Gutenberg, de la cité de transit Gutenberg de Nanterre. Et donc, qui étaient eux-mêmes impliqués dans la lutte pour que justice soit rendue à Abdenbi Gemia, on en parlera, et pour le relogement des habitants des cités de transit, avec une idée très précise de, on va être relogé en fonction du désirata des familles, pas simplement être baladé d'une cité de transit ou d'un HLM à l'autre, etc. Et donc, aussi une idée de pouvoir, prise de pouvoir sur la forme de l'habitat à venir. Il y avait des gens de Marseille, par exemple, qui, suite à la mort de Lawari Ben Mohamed en 80, déjà c'était une vieille histoire, avaient monté une pièce de théâtre qui s'appelait Yaolidi. Donc comment s'approprier des formes culturelles pour exprimer sa rage de la situation et aussi à travers une pièce de théâtre, par exemple, qui aussi bien une troupe culturelle qu'un truc social, qui agit à la fois localement, puisque la composition de la troupe, c'était des jeunes, mais aussi pas mal de femmes et de mères. Donc voilà, à travers le théâtre, on raconte aussi dans Yaoulidi, pas seulement la mort de Lawari et la douleur, etc., mais aussi des scènes de vie de la cité. La légende est dit que c'est Toumi Djedja, dans une discussion avec le père Christian Delorme, dit le curé des Minguettes, qui a eu la révélation, voilà, faire une marche. Bon, l'intérêt, c'était, en même temps, c'était d'inscrire ce projet dans une espèce d'épopée historique, comparée à Gandhi, à la marche de Gandhi ou à la marche de Martin Luther King. Enfin, bon, il y a cette dimension lyrique, historique. Derrière, il y avait aussi une manière pour Delorme et quelques-uns de faire passer une idéologie d'intervention, celui de la non-violence, qui au départ n'était pas forcément la culture des lascars de cité, qui était une culture d'affrontement direct avec la police et de rapport de force. Et en même temps, au Minguette, les gens, enfin surtout les jeunes, ils sentaient bien que militairement, d'un point de vue militaire, à un moment donné, ils ne pourraient pas faire la différence. Et par la suite, dans la préparation de la marche, la dimension de l'auto-organisation des jeunes et des quartiers est complètement sabordée au profit de ce thème dit fédérateur de la fraternité, et de démontrer que à travers la France, il n'y a pas que des racistes, etc. Et toute la mythologie après de la marche et des médias va développer là-dessus. Il y avait cette double dimension, une marche pacifique, un peu impliquant des milieux de la, on va dire, des droits de l'homme, donc humaniste, chrétien de gauche, l'idée des droits de l'homme, etc., etc. Et de l'autre côté, l'appel à une espèce de coordination des comités de lutte sur ces questions-là qui existaient déjà, coordination plus autonome qui était de l'auto-organisation.
C'était la jeunesse qui était dans la rue. Et je pense que les politiques, à ce moment-là, se sont dit, alors si c'est les Arabes, les jeunes Arabes, qui sont capables de mettre des gens des jeunes dans la rue, c'est pas possible. Il faut absolument tout faire pour qu'ils n'en prennent pas la direction. À ce moment-là, on n'a pas compris, quoi. On n'a pas compris que toutes ces forces extérieures allaient tout faire pour mettre les Arabes au pas. Et le Parti Socialiste a tout fait, puisque la jeunesse se mobilisait, pour avoir un mouvement antiraciste qui soit moral.
À l'époque, donc, la raison d'être de la marche pour l'égalité, c'était la violence et l'impunité de la police. Et l'acharnement de la justice, d'un côté condamner des voleurs de voitures, comme on disait, et de l'autre libérer les policiers. Bon, c'était vraiment tout un discours sur la justice à deux vitesses. Et naturellement, on développait à la fois un travail sur la marche, comme une forme d'action, et un travail d'organisation sur les affaires police-justice. Tout le mois de juillet, au moment par exemple où Toumi Djedja était encore à l'hôpital, il y avait des actions sur la question de la justice, notamment sous la forme de forum justice, où se discutait comment intervenir sur les questions de police et de justice, que ce soit sur Toumi Djedja, parce qu'il faut savoir que, bien que Toumi Djedja soit à l'hôpital et qu'il était blessé, et qu'il y avait ces histoires de projets sur la marche et tout ça, mais en même temps, l'acharnement, y compris judiciaire, sur Toumi continuait. C'est-à-dire que même sur son lit d'hôpital, il reçoit un mandat d'amener d'un juge qui s'appelle Crétin, pour des affaires antérieures qui tendent à crédibiliser l'histoire que, de toute façon, Toumi et comme tous ses copains, c'est des délinquants.
La mort ne vient pas seule. Il y a beaucoup de monde dans la rue Pierre Charon. Il est 2h du mat, le braquage a foiré. J'ai une balle dans le ventre, une autre dans le poumon. J'ai vécu à Sarcelles, je crève aux Champs-Élysées. Je vois la France entière du fond de mes ténèbres. Les charognards sont là, la mort ne vient pas seule. Putain, j'ai la connerie humaine comme oraison funèbre. Et le regard des curieux comme unique linceul. Même le boulanger du coin a quitté ses fourneaux pour s'en venir cracher sur mon corps déjà froid. Il dit, je suis pas raciste, mais quand même les bicots, chaque fois qu'il y a un sale coup, bah faut qu'ils en soient. Moi monsieur, je vous signe que j'ai fait l'Indochine. Tiens un ancien para, quelques arrivistes. Ces mecs là c'est de la racaille, c'est pire que les Viet Minh. Faut les descendre d'abord et discuter ensuite.
Et c'est bien fait pour ta gueule. Tu n'es qu'un petit salaud. Ça ne comportera pas le deuil. C'est bien fait pour ta peau.
La mort ne vient pas seule.
C'est bien fait pour ta gueule. Tu n'es qu'un petit salaud. Ça ne comportera pas le deuil. C'est bien fait pour ta peau.
Charognard. Les zonards qui sont là vont se faire lyncher sûrement s'ils continuent à dire que les flics assassinent. Qu'on est un être humain même si on est truand. Que ma mise à mort n'a rien de légitime.
Et s'ils prenaient ta mère comme otage ou ton frère?
Dis à Berber et Basque, un jeune besoin de cuir.
Si c'était ton fils qui était couché par terre, le nez dans sa misère?
Répond le jeune pour finir. Et monsieur Blanc Cassis continue son délire. Convaincu que déjà mon âme est chez le diable. Que ma mort fut trop douce, que je méritais pire. J'espère bien qu'en enfer je retrouverai ces minables. J'suis pas un héros, j'ai eu ce que je méritais. J'suis pas à plaindre, j'ai presque de la chance. Quand je pense à mon pote qui lui n'est que blessé et va finir ses jours à l'ombre d'une potence.
Et c'est bien fait pour ta gueule. Tu n'es qu'un petit salaud. Ça ne comportera pas le deuil. C'est bien fait pour ta peau.
La mort ne vient pas seule.
C'est bien fait pour ta gueule. Tu n'es qu'un petit salaud. Ça ne comportera pas le deuil. C'est bien fait pour ta peau.
Il y a beaucoup de monde dans la rue Pierre Charon. Il est 2h du mat, le braquage a foiré. J'ai une balle dans le ventre, une autre dans le poumon. J'ai vécu à Sarcelles et je crève aux Champs-Élysées.
Elle n'a même pas 17 ans, cette fille qui pleure en pensant qu'à ses pieds il y a un homme mort.
Et c'est bien fait pour sa gueule.
Qu'il soit flic ou truand, elle s'en fout sa pudeur. Comme ces quelques larmes me réchauffent le corps.
Ce n'est qu'un petit salaud.
Il y a beaucoup de monde dans la rue Pierre Charon. Il est 2h du mat, mon sang coule au ruisseau.
On portera pas le deuil.
C'est le sang d'un voyou qui rêvait de millions.
J'ai des millions d'étoiles au fond de mon caveau.
J'ai des millions d'étoiles au fond de mon caveau.
30 ans après, je m'aperçois que des images que Immédiat avait fait tourner à l'époque, que l'idée de la marche pour l'égalité et l'idée d'associer des campagnes contre les crimes racistes sécuritaires existait déjà à l'époque. Les images d'Immédiat le montrent, le frère de Wahida Chichi dire en présence des copains de Toumi Dieja, des jeunes des Minguettes, donc en juillet, dire voilà, il faudrait faire un rassemblement des maires sur l'exemple des folles de mai en Argentine, rassembler les familles des victimes pour qu'elles puissent s'organiser, essayer de créer une coordination nationale et interpeller le pouvoir politique, en l'occurrence Robert Badinter, ministre de la Justice, sur les questions de l'impunité, soit des crimes policiers, soit des crimes beaufs. Alors la question, c'est est-ce qu'il fallait dénoncer la dérive humanitaire, moraliste de la marche, ou est-ce qu'il fallait la dénoncer ou laisser faire et s'occuper de nos oignons, en disant que de toute façon, la réalité, enfin, on sait qu'on a raison et que la réalité va rattraper la marche. C'est un peu le pari qu'on a fait. Donc on a organisé des forums justice pendant la marche, une réunion publique organisée autour de la question savoir comment est-ce que les familles, les amis des victimes et les militants ou les gens concernés des quartiers peuvent se réapproprier les affaires. Comment est-ce qu'ils peuvent intervenir dessus et pas simplement rester des spectateurs passifs des affaires gérés par par les médias ou par les avocats ou par les juges d'instruction, etc. Comment, quel type d'intervention est-ce qu'on peut avoir sur les affaires pour en changer bien sûr le sens et pouvoir gagner. Voilà. Et donc c'est un moment fort d'information sur les affaires et un moment de contre-pouvoir. Les familles, par exemple, qui participent à ces forums justice, ils en ressortent avec une pêche et avec l'idée qu'il ne s'agit pas simplement de mettre en commun les peines. C'est pas simplement un moment émotionnel, il y a aussi un moment émotionnel parce que les familles qui craquent, etc. Mais c'est aussi la formule, c'est comment aller au-delà des pleurs et agir pour gagner, agir pour, en tout cas pour fixer un cap qui permettent de faire bouger les lignes, etc., y compris de faire des propositions. Et donc on s'aperçoit souvent qu'il y a l'action de type juridique, mais il ne faut pas non plus tomber dans le piège du juridico-juridique. Bien souvent, la réponse peut être politique, et d'où le principe d'interpeller le pouvoir politique. Par exemple, pour l'étape lyonnaise, le 28 octobre, le premier anniversaire de la mort de Wahid Hashishi. Donc, 28 octobre 83, un an après, Forum Justice à Vaux-en-Velin. La marche arrive le lendemain sur la région lyonnaise. Mais donc, il y a une demi-douzaine de marcheurs, dont Toumi déjà, dont Bouzid, enfin bon, dont Farid, les principales figures de la marche qui décrochent de la marche et qui viennent participer au Forum Justice. Soit dit en passant, la coordination officielle de la marche, contrôlée par la CIMAD de Lyon, boycotte complètement le Forum Justice, n'en parle pas. Enfin bon, c'est révélateur. Et à l'époque, on se disait que les gens sont débordés, qu'ils ne pensent pas à tout, mais en fait, quand on regarde bien, ça a disparu des écrans radars. Donc, il y avait une volonté délibérée de la CIMA de Lyon et de ses responsables, etc., de minimiser. Mais bon, le Forum Justice a eu lieu à Vaux-en-Velin. Il y a des familles de Marseille qui étaient venues, qui se sont dit « il faut qu'on en refasse un à Marseille ». Donc, pendant que la marche elle montait sur Paris, les Marseillais sont redescendus à Marseille, ont organisé un forum justice le 24 novembre. Il y a eu un forum justice organisé à Levallois le 2 décembre, donc la veille de l'arrivée finale à Paris. Donc voilà, l'idée s'est développée, s'est étendue pendant même la marche. Au mois de novembre, c'est l'histoire du Bordeaux Vintimille. Il y a un touriste algérien, de, je crois 25 ans, Habib Grimzi, qui se fait défenestrer par trois légionnaires. Et là, c'est le crime raciste le plus abject. Et là, il y a une levée de boucliers en France. Donc là, la question des crimes racistes en 83, vraiment, c'est identifié, un, par la mort de Toufik Ouanès, tué par un beauf, un tonton flingueur à la cité des 4000 à la Courneuve le 9 juillet 83, et la mort de Habib Grimzi, tué, Faderworm, dans le Bordeaux Vintimille. Voilà, deux trucs qui passent pas et dont non, les médias, les masses médias ont quand même beaucoup parlé, quoi. Et du coup, c'est là où on dit, voilà, la réalité des crimes racistes, mais aussi des violences policières, rattrape la marche. Parce qu'il y a, comment, il y a Habib Gamzi, il y a aussi une descente de CRS au Minguette, dans un fast-food, pour une histoire de dope ou je sais pas quoi, et une rafale de pistolet mitrailleur qui part. Heureusement, il n'y a pas de blessés, etc. Mais bon, dans la cité... des Minguettes, ça fait grand bruit. On est fin novembre, les gars ils sont au téléphone, ils disent ouais, mais vous marchez comme des bouffons, et les flics eux, ils paradent ici dans la cité. À ce moment-là, les gars des Minguettes ils ont failli arrêter, ils ont failli arrêter la marche. Ils disent, attendez, on marche, un truc blabla sur le pacifisme. Et les gars, ils viennent au pistolet mitrailleur dans mon lieu de vie. Donc, à partir de ces deux événements, Habib Kamzi et plus le CRS au fast-food, la question de la police et de la justice devient la préoccupation principale des marcheurs, y compris. Et à l'arrivée, ce qui se passe à l'arrivée, c'est aller au-delà de nos espérances, à la limite, c'est qu'il y a le premier rang, c'est les marcheurs, les minguettes, ça. Le deuxième rang, c'est les familles des victimes des camps racistes sécuritaires, familles arabes, familles antillaises, familles africaines, familles françaises, blanches, etc. Avec les pancartes avec les noms, parfois avec la photo des familles, avec la situation, etc. Et on oublie quand même de dire que, à la fin, au niveau de l'entretien avec Mitterrand ou avec Georgina Dufoy à Montparnasse, on dit oui, la marche elle a permis d'obtenir la carte unique de 10 ans. Ce qui, pour les immigrés en situation régulière, on va dire. Mais l'autre aspect, c'était aussi un engagement pour faire en sorte que les crimes racistes cessent et pour qu'il y ait des possibilités nouvelles d'intervention en justice par rapport aux crimes racistes ou sécuritaires. Et il n'y a pas eu de publicité faite autour de cet aspect-là, parce que les gens ne savaient pas sous quelle forme ça allait prendre, mais en réalité, il y a eu des travaux à gauche, à droite, et en loose day quasiment, même le code pénal a été changé pour intégrer les violences racistes comme caractère aggravant. Auparavant, ce qui était poursuivi, c'était l'injure raciale, avec la loi de 72, etc. L'aspect pratique, c'était aussi que les associations puissent se constituer partie civile dans ces affaires. Alors, c'est quoi l'intérêt de se constituer partie civile? C'est d'accompagner les familles, d'avoir accès aux dossiers et de pouvoir donc intervenir dessus, quoi. Les parties civiles ne sont pas tenues au secret de l'instruction. C'est quand même un détail à ça. À l'époque, le pouvoir avait peur d'une trop grande autonomie. Ils avaient peur de la spontanéité aussi de ces initiatives qui risquaient d'être incontrôlables. Donc même pour cette revendication-là, ils ont adjoint d'une limite en disant que les associations devaient avoir 5 ans d'existence. Ce qui paraît rien, puisque bon, les associations qui étaient actives, elles venaient d'être créées.
17 septembre 2000, Ali Rezgi, 19 ans, comble la ville. Tué lors d'une interpellation en essayant de forcer un barrage. Non-lieu, le 14 octobre 2000. 19 juin 2001, Jamel S, 17 ans, Montigny-les-Cormeilles. Tué, écrasé par un fourgon de police qu'il poursuivait. Les policiers sont mis hors de cause par le procureur de la République.
23 septembre 2001, Blanzy. Jérémy Thaïlandais, 20 ans. Percuté par une voiture de gendarmerie, sursis de 2 ans.
13 octobre 2001, Abdelhila, Hossine, Saïda et Stéphane, de 20 à 30 ans, Thonon-les-Bains. Tué en voulant éviter un contrôle dans un accident de voiture causé par une course-poursuite avec des policiers sur les hauteurs. Aucune instruction n'est ouverte.
Edouard Saloumou Soumbou, 43 ans, octobre 2001, Paris. Mort en garde à vue. Plusieurs personnes témoignent de la brutalité de son interpellation. Aucune suite judiciaire connue.
Redouane Téchambi, novembre 2001, Antibes. Malaise cardiaque lors d'un contrôle d'identité. Les policiers ont empêché ses camarades de lui faire un massage cardiaque.
Un jeune, décembre 2001, Neuilly-sur-Marne. Abattu alors qu'il tentait de braquer une banque.
Moussa Bradé, janvier 2002, porte de Saint-Ouen. Tué alors qu'il forçait un barrage de police. Tué d'une balle dans la tempe.
Xavier Deham, mai 2002, Damary Lélis. Tué d'une balle dans la tête lors d'une interpellation au domicile de son grand-père.
23 mai 2002, Mohamed Berichi, 28 ans, Damary Lélis. Mort d'une chute de moto pendant une course-poursuite par la BAC. Aucune instruction n'est ouverte.
7 septembre 2002, Georges Mondésir, 42 ans, Châtenay-Malabry. Mort plaqué au sol par strangulation et malaise cardiaque.
18-19 octobre 2002, Strasbourg, anonyme, 17 ans, mort par noyade en essayant de s'enfuir, surpris en train de cambrioler un entrepôt.
30 décembre 2002, Roissy, Ricardo Barrientos, 52 ans. Pliage et mort étouffé dans un avion lors de son expulsion par malaise cardiaque.